Comme directeur général du Fonds monétaire international, je crois que de vrais progrès ont été accomplis.
Vous y croyez pas à la reprise?
Non, personnellement non. Pas du tout.
Oui, nous allons avoir une hausse de chômage continue.
Donc je pense que le gouvernement a plutôt montré ces derniers temps qu'il était plutôt en faveur des entreprises et on espère que ça va durer.
Tous ensemble, tous ensemble. Hey hey tous ensemble, tous ensemble. Hey
hey Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons agriculture. La faim dans le monde recule. Selon les dernières estimations toutes récentes de la FAO, 11% de la population mondiale est encore sous-alimentée, contre 18% il y a 20 ans. Grâce à qui ? Aux petites exploitations familiales ou aux grands complexes agro-industriels? La sécurité alimentaire de la planète peut-elle être assurée par les exploitations familiales, en général de petite taille, celles qu'on rencontre souvent, par exemple, en Afrique? Les grandes exploitations à l'américaine ou à la brésilienne ne sont-elles pas plutôt indiquées? Pour répondre à ces deux questions, deux invités, Kako Nubukpo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste du coton africain et ministre de la prospective du gouvernement du Togo. L'agriculture togolaise, petite ou grande exploitation, Kako Nubukpo?
J'ai envie de répondre petites exploitations. En tout cas, c'est la réalité du moment.
Également avec nous, l'universitaire français Hubert Cochet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agroéconomiste, professeur à l'université AgroParisTech, où vous êtes responsable de l'unité de formation et de recherche Agriculture comparée et développement agricole. Vous êtes aussi membre fondateur de l'association ACTER, qui prépare pour l'an prochain un forum mondial sur l'accès à la terre. Pourquoi ce forum, Hubert Cochet?
Je pense tout simplement pour remettre sur la table des débats internationaux la question de l'accès à la terre et aux ressources naturelles et celle du lien entre modalités d'accès aux ressources et usage des ressources.
Alors au cours de cette émission, nous entendrons également Maureen Joran, une des porte-parole de l'ONG CCFD Terres Solidaires, nous dire son attachement à l'agriculture familiale. Nous nous rendrons à Santiago, au Chili, avec notre correspondante Claire Martin, pour faire le point sur les latifundios, les grandes exploitations agricoles. Nous irons en Birmanie avec notre correspondant Rémi Favre, qui nous emmènera dans une ferme de crabes, et au Mali avec David Bachet pour un reportage auprès de paysans en colère.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Mais d'abord, pour poser les termes du débat, un document. Vous le savez, de l'Éthiopie au Mozambique, en passant par la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, de grandes exploitations agricoles voient le jour en Afrique. Difficile d'aborder le sujet avec leurs promoteurs, la plupart de ces investisseurs refusent de s'exprimer publiquement. L'un d'entre eux a pourtant accepté de répondre à mes questions. Luc Bout est le président de la société Socfin. C'est une société de droit luxembourgeois qui a des terres dans presque toute l'Afrique de l'Ouest. Écoutez Luc Bout, que j'ai joint au téléphone, faire d'abord l'énumération de ses implantations agricoles en Afrique de l'Ouest.
On est présent à Sierra Leone, Liberia, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, Congo, Congo RDC, le Cambodge et l'Indonésie.
La taille moyenne de vos exploitations, quelle est-elle?
Par exemple, à Sierra Leone, c'est 3 blocs de 3 à 4 000 hectares. En Côte d'Ivoire, c'est un grand bloc de 35 000 hectares, tout près de la frontière avec le Liberia.
Et vous y cultivez quoi?
On y fait le palmier à huile et les vias surtout.
Dans ces pays-là où vous intervenez, que ce soit en Afrique ou en Asie, comment s'est passée l'acquisition de ces terres? Comment avez-vous opéré?
En Côte d'Ivoire, il y avait une plantation de l'État qui a été privatisée dans le cadre d'un offre publique. Ça, c'était la même chose au Cameroun. Et dans le cadre de cette privatisation, nous avons repris ça. Au Congo, c'était une plantation abandonnée par Unilever qu'on est en train de réhabiliter. Au Cambodge, c'est des concessions qui ont été vendues par l'État.
Vous savez, Monsieur Bout, que ce genre de grande exploitation est en ce moment très critiqué. On parle de land grabbing, d'accaparement de terres, d'expropriation de petits paysans. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces critiques, à toutes ces attaques?
C'est le résultat d'une observation très, très superficielle. En effet, je considère que les deux exploitations, hein, la petite exploitation et les grands complexes agro-industriels, ils doivent aller de main en main. Il n'y a pas une autre solution. Il faut savoir, dans les zones où on opère, et surtout en Afrique, l'agriculture qui se pratique est une agriculture sans méprisant, mais c'est pratiquement des pratiques de Moyen-Âge. Et ces exploitations sont, un, pas du tout rentables, de deux, les gens n'ont pas du tout les moyens de moderniser leurs plantations. Trois, les produits qu'ils produisent, ils ne peuvent pas les amener au marché. Et donc, rester avec ces plantations, ça c'est vraiment continuer dans la pauvreté. Tandis qu'une exploitation moderne aide sur plusieurs choses. Par exemple, on est installé en Côte d'Ivoire, mais on a développé autour de ça cette exploitation, disons sur notre concession, il y a 25 000 hectares plantés, mais autour, il y a des petits planteurs qui se sont développés, plus de 100 000 hectares. Hein? Et à travers notre installation, ils sont capables de mettre leurs produits sur le marché mondial. Donc on a besoin de ces grands complexes agro-industriels aussi pour introduire une modernité dans l'exploitation.
Alors, Kako Nubuko, on a besoin de ces grands complexes agro-industriels ?
Oui, on a besoin de toutes les formes possibles d'agriculture. Mais l'enjeu, c'est l'enjeu de l'endogénéité.
C'est-à-dire ?
Si vous avez de façon endogène des exploitations familiales qui veulent mutualiser leurs ressources et qu'à terme, elles donnent finalement une exploitation à grande échelle, peut-être qu'il sera plus facile de gérer les questions liées au partage des ressources, à la cohabitation des différentes ethnies, des différentes générations d'agriculteurs. Et là, on peut dire que le développement a engendré un processus endogène d'élargissement de la taille des exploitations. Sinon, le risque, c'est d'avoir une agriculture à deux vitesses, la petite exploitation familiale, qui fonctionne comme un système et qui, en Afrique, et c'est ce que je pense, a fait la preuve de sa résilience, et de grandes exploitations de nature latifondière qui pourraient être perçues comme des corps étrangers et donc comme des prédateurs dans des environnements qui ont d'autres types de régulation. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler sur la question de la complémentarité, mais endogène, de ces deux types d'agriculture.
Hubert Cochet, ces grandes exploitations importées, en quelque sorte, elles rendent service à l'agriculture familiale, à l'agriculture, à la sécurité alimentaire en Afrique ?
Alors, je voudrais, pour ne pas tomber dans le piège dénoncé par Luc Bout de la superficialité, insister sur d'abord la grande diversité des situations. Et le cas qui vient de nous être présenté représente un cas particulier où un industriel installe surtout un complexe agro-industriel hein, pour transformer une production et s'entoure pour cela d'une part d'un noyau de terre directement géré par l'industriel et d'autre part d'une myriade de petites exploitations familiales qui seront donc les fournisseurs de l'agro-industrie. Donc dans ce genre de situation, des investisseurs capables de monter des usines, de transformer des produits, de permettre de les vendre sur le marché international ou sur le marché local, bien sûr, on a besoin d'investissements de cette nature. Lorsque les investisseurs prennent le contrôle de terres pour assurer eux-mêmes la production primaire, c'est une situation tout à fait différente.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, autant, je pense, nécessaire les investissements industriels pour transformer les productions et permettre d'accroître la valeur ajoutée nationale, à condition, bien sûr, qu'un partage de la valeur ajoutée soit équitable, autant, je pense, que la prise de contrôle directe par des investisseurs de la terre pour la production primaire, sans transformation...
Qu'est-ce que vous appelez la production primaire ?
La production de, disons, de produits agricoles non transformés. Et dans ce domaine-là, il est clair que cette production industrielle est souvent moins efficace que la production familiale de multiples exemples.
Mais concrètement, à quel produit pensez-vous, à quelle production pensez-vous quand vous parlez d'agriculture, de production primaire ?
Eh bien, des céréales, des légumineuses, des fruits et légumes, toutes sortes de produits qui sont livrés sur les marchés sans transformation industrielle préalable.
Et donc, ils servent à l'alimentation des populations locales ?
Locales ou qui sont exportées. Comme tout ce qui peut faire l'objet de commerce international, céréales, légumineuses, etc.
Au mois de mars 2013, la Banque mondiale disait dans un rapport qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur ces grandes exploitations et que sans ces investissements, le continent africain ne serait pas au rendez-vous du développement. Vous êtes d'accord, Kakono Mbuku ?
Non, moi je crois qu'il faut toujours partir de la base. Prenez l'exemple du coton. Si vous avez une lecture en termes de commerce international, vous allez raisonner en termes de filière coton. Mais quand vous avez une lecture territoriale, vous voyez tout de suite que ce sont des systèmes de production à base de coton. Ça veut dire que vous n'avez jamais seulement le coton. Vous avez toujours des céréales et c'est un choix de portefeuille pour les paysans, coton-céréales. Et le paysan sait comment il articule les intrants dont il dispose, les crédits auxquels il a accès. Et il trouve une sorte d'optimisation globale. Donc, l'idée d'aller vers une lecture en termes de filière peut être une idée appauvrissante par rapport à la rationalité paysanne qui est souvent plus complexe que ce qu'on veut bien dire. Donc, a priori, tout le monde veut l'accroissement de la productivité des facteurs, une meilleure redistribution des revenus. Mais je crois que la manière de faire devrait nous inciter à être beaucoup plus prudents par rapport à tout ce qui peut être perçu comme des formes d'extraversion.
Alors parfois, les gouvernements africains ne sont pas tout à fait prudents. Ils sont souvent enclins à concéder de grandes superficies à des entrepreneurs privés. C'est par exemple le cas au Mali où cela provoque des remous, comme le correspondant de RFI, David Bachet, a récemment pu le constater.
L'accaparement des terres frappe des milliers de personnes et concerne plus d'un million d'hectares au Mali, selon les associations de défense des victimes. La plupart du temps, ce sont des paysans qui se font exproprier de leurs champs, car ils ne possèdent aucun titre sur des terres cultivées depuis des générations. Yacouba Koulibaly vient du village de Denso, dans le centre du Mali. Son cas remonte à 2011.
Mon problème, c'est le même problème que sept villages. Dans les sept villages, bon, le préfet a sorti une décision sur nos terres coutumières pour les distribuer. Il y a des opérations de vente, bien sûr, qui, sur le terrain aujourd'hui pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, les sept villages n'ont aucune terre dans la plaine.
Ça représente combien de personnes qui se sont fait expulser comme ça ?
Des milliers. C'est des milliers. Sept villages, il faut compter des milliers de personnes. Ça continue. Nous sommes à la quatrième saison pluvieuse. Santé. Le problème demeure toujours.
En théorie, le Mali reconnaît les droits coutumiers des paysans sur leurs terres traditionnelles. En théorie seulement. Boubacar Diara habite dans la commune rurale de Baguineda, à une trentaine de kilomètres au sud de Bamako.
Ouais, notre problème remonte à 2009. Un riche a acheté nos champs. Nos champs, ça veut 10 hectares. Une trentaine de personnes qui cultivent là-bas. C'est le chef de village qui a vendu nos champs. On allait à Baguineda, c'était notre commune, pour déclarer à la gendarmerie, aux mairies et à la commandante. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultats propres.
En mai dernier, une commission interministérielle jusqu'ici en sommeil a été réactivée et chargée de régler 10 cas d'accaparement jugés prioritaires. Mais les associations de défense des victimes s'inquiètent de blocages. Lamine Koulibaly, porte-parole de la coordination nationale des organisations paysannes du Mali.
En réalité, ce qui bloque, c'est que les avis sont partagés. Parce qu'il y a ces ministres-là qui ne veulent pas aller vers la résolution de ces problèmes-là. Les ministres qui ne veulent pas, peut-être, ils trouvent leur compte là-dedans. Parce qu'il y a une manne financière qui est derrière. Parce qu'il y a des investisseurs, non seulement nationaux, qui sont derrière, qui ont de l'argent. Donc, ce qui fait que les choses ne bougent pas.
Début septembre, les victimes d'accaparement décident d'organiser une grande manifestation à Bamako. Mais au dernier moment, la manifestation est interdite. Le gouvernement malien décide finalement de réagir. Plusieurs mesures d'urgence sont annoncées, à commencer par la suspension de l'attribution par l'État de titres fonciers, un gel programmé pour une durée de 6 mois.
Alors Hubert Colchet, dans ce qu'on vient d'entendre depuis Bamako, ce dont on se rend compte, c'est que les, entre guillemets, accapareurs ne sont pas seulement des entreprises étrangères, mais qu'il y a aussi des investisseurs locaux, c'est la bourgeoisie malienne en quelque sorte.
Tout à fait. Et c'est vrai que ce processus d'accaparement de ressources par des fonds étrangers ne représente que la pointe émergée de l'iceberg, dans la mesure où les bourgeoisies nationales, effectivement, se sont engouffrées dans cette course à la terre, dans l'espoir soit d'en tirer directement de substantiels profits, soit de revendre ou recéder ces terres à des investisseurs étrangers. Il y a donc là un effet d'entraînement sur le processus qui fait que les surfaces concernées sont parfois beaucoup plus considérables que celles directement contrôlées par des investisseurs étrangers.
Kakonobuko, vous avez pu être témoin de ce genre d'opérations financières sur les terres ?
Oui. Tout d'abord, permettez-moi de dire ma nostalgie à l'écoute de voix qui me sont familières. J'ai travaillé 5 ans au Mali dans l'agriculture. Et les régions dont on a parlé, comme Baguineda, c'est à côté de Sélingué, ce sont des zones où on fait de la culture de contre-saison.
C'est-à-dire
qu'on n'est pas obligé de s'en tenir simplement au cycle naturel, mais de par une certaine maîtrise de l'eau, on arrive à produire même dans des périodes qui ne sont pas traditionnellement des périodes de production, notamment la pomme de terre. Et donc, ce qu'il faut dire, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure et ce que M. Cochet vient de dire, nous avons ce qu'on peut appeler une bourgeoisie comprador, hein, qui fait de la prédation, mais de façon graduelle, c'est-à-dire que les plus grands accèdent aux terres les plus fertiles et ainsi de suite. Le problème que ça pose, c'est qu'on risque de se retrouver en Afrique dans des situations latino-américaines de paysans sans terre. Or, vous savez que le foncier, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. Parce que la terre, en tout cas au Togo, n'appartient pas à l'État, elle appartient aux communautés. Et donc, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que même à l'intérieur de ces communautés, il se développe des pratiques de vente, entre guillemets, sauvage, de ces terres, ce qui crée des difficultés en termes de social et de solidarité familiale. Vous savez, on a connu ce type de situation avec les groupements villageois au niveau de la caution solidaire. Et là, on se rend compte qu'on change d'échelle. Donc, il n'y a pas que les grandes sociétés étrangères, mais il y a de plus en plus de nationaux aisés qui diversifient leurs actifs en accédant à la terre d'une manière qui est une manière prédatrice.
Alors quand les gouvernements ou les communautés concèdent de grandes étendues de terre à des investisseurs locaux et étrangers, est-ce que ça n'est pas aussi parce qu'ils n'ont pas trouvé les moyens de viabiliser ces terres, Hubert Cochet ?
La première observation que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, les investisseurs et les gouvernements qui les accueillent nous disent souvent « mais il y a de vastes superficies disponibles qui ne sont occupées par personne, qui pourraient être mises en valeur, faisons appel aux investisseurs pour viabiliser ces terres ». Or, ce que l'on constate sur le terrain, c'est que la plupart de ces projets d'investissement sont réalisés sur des terres qui sont évidemment les plus fertiles, qui sont souvent assez proches des principaux axes de communication et qui sont par conséquent très souvent densément peuplées. Donc il est inexact, du moins dans la plupart de ces projets, d'imaginer qu'il s'agit de mettre en valeur de nouvelles terres qui n'auraient jamais été cultivées auparavant et qui ne seraient pas habitées. La plupart des exemples sont tout à fait contraires à cette analyse. Dès lors, ces promesses de viabilisation, de mise en valeur, que valent-elles lorsque on évince des populations qui ont déjà mis en valeur, cultivé, investi énormément de travail dans des écosystèmes parfois fragiles? Eh bien, il se produit ce que l'on a entendu à l'antenne pour ces agriculteurs maliens, des phénomènes d'éviction parfois massifs.
Massifs, des milliers.
Absolument.
Alors c'est la fin de cette première partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour continuer à parler exploitation familiale ou agro-industrie avec nos deux invités, Hubert Cochet et Kako Nubuko.
L'année prochaine, nous prévoyons une croissance de 5,5% pour l'Afrique subsaharienne.
Le modèle que nous avons développé au Maroc, que nous souhaitons dupliquer en Afrique subsaharienne, c'est de s'ouvrir sur les classes moyennes, les fonctionnaires et les salariés, et les très petites entreprises et les PME-PMI.
On ne gagne pas. Tout le problème, c'est le non-paiement des salaires. C'est ça qui me fait mal. Si tu travailles, on doit te payer. Nous réclamons comme ça, nos droits.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Suite de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la question de la propriété des terres agricoles, exploitation familiale ou exploitation agro-industrielle, deux invités dans ce studio, l'économiste et ministre togolais de la prospective Kako Nubukpo et Hubert Cochet, professeur d'agriculture comparée à AgroParisTech. Alors, un petit retour en arrière, si vous le permettez. En 1979, la FAO organisait une conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural. La conclusion de cette conférence, c'est qu'il fallait distribuer la terre à ceux qui n'en avaient pas du tout ou pas assez pour vivre décemment. Mais aujourd'hui, comme si les choses n'avaient pas avancé, c'est toujours le même discours qu'on entend. Maureen Joran est l'une des porte-parole du Comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD Terres Solidaires. Pour elle, il faut en terminer avec l'idée selon laquelle les agriculteurs familiaux ne seraient pas à la hauteur.
Il est urgent de déconstruire cette vision de l'agriculture familiale et paysanne qui est souvent une vision archaïque. Aujourd'hui, déjà, il faut savoir que 60% de notre alimentation dans le monde est fournie par l'agriculture familiale. Donc ça, c'est un premier succès. Ça montre à quel point ils sont présents dans notre alimentation quotidienne. Par ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par des instituts de recherche, des scientifiques, des modèles de production comme l'agroécologie qui sont basés sur une échelle familiale, paysanne, des systèmes et des marchés locaux, pourraient nourrir toute la planète et même plus si on l'appliquait à l'échelle mondiale. Donc finalement, ce débat sur l'efficacité de production des modèles doit être dépassé. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on leur a donné le moyen d'être efficace, et ça, clairement, non. On l'a vu, les investissements publics dans l'agriculture ont chuté ces 20 dernières années en Afrique.
Mais ils avaient augmenté après la crise de 2007.
Il y a eu des effets d'annonce, notamment aussi des États du Nord, avec des dizaines de milliards d'euros annoncés. En fait, ce qui a été réellement décaissé, c'est à peine la moitié. Et puis surtout, vers qui étaient orientés ces investissements? On revient à la question de qui en bénéficie. Est-ce que c'est les grands producteurs ou les petits producteurs? Clairement, c'est des investissements aussi à grande échelle, des grandes infrastructures énergétiques, routières, pour le développement et la distribution des grandes productions et non pas des investissements dans les infrastructures pour les petits producteurs, ni la mise en place de systèmes de crédit qui sont là les deux clés pour pouvoir permettre un vrai développement de l'agriculture paysanne.
Mais vous voyez pourtant que le Brésil a enregistré d'importants progrès économiques, en partie grâce à ces gigantesques exploitations agricoles.
Alors il faut savoir que le débat aujourd'hui au Brésil est complètement ouvert sur le modèle agricole justement et les impacts qu'on commence à ressentir. En effet, il y a eu cette période d'or, j'ai envie de dire cette croissance verte très accélérer le modèle agricole à très grande échelle performant. Il faut se rappeler qu'au Brésil, il y a quand même beaucoup de populations sans terre encore aujourd'hui. Et ce modèle, même aujourd'hui, pose des problèmes en question d'impact écologique, environnementaux, sociaux. Le modèle brésilien est lui-même contesté de l'intérieur aujourd'hui. Et il faut savoir qu'au Brésil, il existe deux ministères, le ministère des grandes exploitations, mais aussi le ministère de l'agriculture familiale, qui prend de plus en plus de pouvoir pour pouvoir développer ce modèle dans toutes les régions du Brésil.
Alors, beaucoup de questions dans ces propos. Hubert Cochet, est-ce que l'agriculture familiale est plus ou moins ou aussi efficace pour nourrir la population mondiale que les grandes exploitations?
Alors, quand j'entends effectivement les mots d'efficacité et de performance, je voudrais savoir comment on mesure l'efficacité, comment on mesure la performance. S'il s'agit de productivité du travail, s'il s'agit de capacité à rémunérer des capitaux...
On parle de rendement à l'hectare?
Non, justement. Productivité du travail, dans un premier temps, et rémunération des capitaux, très souvent, l'agriculture de ces grandes firmes est plus efficace selon ces deux critères. Elle rémunère très efficacement les capitaux qui sont investis par les fonds d'investissement dans ce domaine. En revanche, si par efficacité et performance, on réfléchit sur la production par hectare, sur la valeur ajoutée par hectare, sur la création d'emplois, etc., alors l'agriculture familiale est presque partout plus efficace et de nombreuses démonstrations ont été faites dans de très nombreuses régions du monde à ce sujet. La valeur ajoutée créée par unité de surface, et c'est bien ça l'un des critères absolument fondamentaux si on veut nourrir 9 milliards de personnes à l'horizon 2050, eh bien la création de richesse par unité de surface est en général très supérieure dans les petites exploitations par rapport aux grandes exploitations.
Alors est-ce que le ministre de la prospective du Togo est d'accord avec ce point de vue, Kako Nubukpo?
Ah oui, tout à fait. Au CIRAD, nous avions réalisé une comparaison dans la filière coton sur le Brésil, le Mali et les États-Unis. on voyait très bien que l'agriculture familiale malienne était tout à fait résiliente, mais que...
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par résiliente?
C'est-à-dire la capacité à nourrir les producteurs, la capacité à utiliser les arrière-effets du coton pour augmenter la production du maïs, et la capacité à utiliser les possibilités du coton, c'est-à-dire la façon dont le système est organisé, l'achat de la totalité de la récolte, la définition d'un prix minimum garanti, ce qui n'existe pas sur les céréales, donc à faire un arbitrage de portefeuille tout à fait conséquent. Mais ce que nous avions observé, c'est que la force de l'agriculture brésilienne, du point de vue de la compétitivité du coton, c'était la capacité du Brésil à déprécier sa monnaie, le real. Et donc, ce n'est absolument pas au niveau de la résilience de l'agriculture familiale, mais au niveau ensuite de la cohérence des politiques publiques. Sinon, je trouve que c'est vraiment faire un mauvais procès aux agricultures familiales africaines que de penser que l'agro-industrie des émergents devrait être le modèle à suivre par tous. Je crois que ce dont nous souffrons en Afrique en particulier, c'est que nous n'avons pas suffisamment travaillé sur les politiques agricoles, sur la question de la territorialisation de l'agriculture, sur la définition des avantages comparatifs par région. Et là, nous payons un peu le discours de la Banque mondiale, le rapport Berg, qui a dit ben, il suffit pas de produire, il faut avoir la capacité d'avoir des devises pour importer les aliments dont on pourrait avoir besoin. Et après la crise de 2008, vous avez vu que le discours a changé. Voilà, le discours a changé. On a dit aux pays africains, vous avez le droit d'avoir de nouveau des politiques agricoles desquelles on peut décliner des programmes et des projets.
Alors, en tout cas, dans les pays dont l'économie s'ouvre depuis peu, la question de cette taille des exploitations agricoles se pose. C'est le cas, par exemple, en Birmanie. Après 50 ans de dictature militaire, le pouvoir actuel a rompu le splendide isolement du pays sur le plan politique comme sur le plan économique. La Birmanie a un gros potentiel aussi exportateur, et cela a un impact sur les superficies agricoles, comme a pu s'en rendre compte notre correspondant à Rangoon, Rémi Favre.
D'abord, je coupe les liens qui maintiennent les pinces des crabes. Ensuite, je les mets dans les cages, puis à l'eau.
À côté de cette ouvrière, deux employés qui inspectent les crabes. Lorsqu'un crustacé perd sa coquille, ils sont chargés de le retirer du bassin car il est prêt à être conditionné.
Je gagne 80 000 tchats par mois. C'est suffisant pour faire vivre une petite famille. Pas pour une famille nombreuse. Moi, j'ai deux enfants. Le salaire suffit. Je n'ai pas de terre. Je ne peux pas cultiver. Alors, je travaille ici comme employé et tout va bien pour moi.
Je travaille de 6h à 17h, avec une pause déjeuner à 11h. Nous travaillons 6 jours ou 6 nuits par semaine. Cette semaine, je travaille 2 jours. La semaine prochaine, ce sera 2 nuits. Je suis logé sur place. Je n'ai rien à payer pour la chambre. Pareil pour les repas. Nous sommes nourris gratuitement. Et j'envoie l'argent que je gagne à ma femme. Elle vient me rendre visite une fois par mois, en général.
Plus de 700 personnes travaillent dans cette ferme qui produit 30 à 60 tonnes de crabes mous par mois. Ici, les affaires sont florissantes. Tay Mintou, le responsable de la ferme, espère agrandir son exploitation.
Nous exportons beaucoup vers les pays d'Asie du Sud-Est et nous commençons à vendre aussi aux États-Unis. Pour le moment, il y a un grand décalage entre la demande et l'offre. Nous ne parvenons pas à satisfaire la demande.
Le responsable se plaint de ne recevoir aucune aide des autorités. Le gouvernement réformateur birman consacre moins de 1,5% du PIB à l'agriculture. Tay Mintou estime que le secteur offre pourtant de très bonnes opportunités pour les grandes exploitations comme pour les petits paysans.
Nos 700 employés n'ont pour bénéfice que leur salaire. S'ils se lançaient à leur compte, s'ils cultivaient la terre eux-mêmes, ils gagneraient plus. S'ils se mettaient ensemble, par groupe de 10 par exemple, ils pourraient gérer leurs propres affaires et ils tireraient plus de profit de leur travail.
Mais en Birmanie, les terres appartiennent à l'État et les petits paysans ont un accès difficile aux surfaces cultivables. Plus d'un millier d'entre eux sont d'ailleurs en procès après avoir manifesté pour réclamer leurs parcelles saisies.
Alors au-delà de la production très particulière de ce crabe birman, la question qui semble posée par ce reportage, c'est celle de l'impact de la mondialisation. Est-ce que la recherche des marchés internationaux n'oblige pas finalement les producteurs à s'agrandir, à chercher des alliances et des financements, Hubert Cochet ?
Oui, c'est effectivement ce qui se passe, mais c'est une course en avant qui va précipiter un certain nombre de pays ou de régions dans le mur, puisque si tous les soutiens publics sont effectivement concentrés sur un secteur agroexportateur émergent, si cela se fait au détriment de la production destinée au marché national, ce qui est quand même très très souvent le cas, quel est le bilan à l'échelle nationale de ces choix politiques? Est-il conforme à l'intérêt national, à l'intérêt du plus grand nombre? Très généralement, non.
Il n'y a pas une division du travail qui s'opère, certains produisant pour nourrir les autres?
Alors, c'est effectivement le discours que tiennent un certain nombre d'investisseurs en disant « mais les paysanneries des pays en voie de développement n'ont pas les moyens d'investir », ce qui, du reste, est en général vrai. Les gouvernements n'ont plus les moyens d'investir massivement dans l'agriculture, donc laissez-nous faire, nous allons investir, nous nous chargeons de nourrir l'humanité. Mais là aussi, le constat et les études qu'on peut faire sur le terrain ne vont pas du tout dans ce sens. L'agriculture mondiale reste dominée par l'agriculture familiale. C'est elle qui a supporté tant bien que mal les accroissements démographiques d'un très grand nombre de pays jusqu'à présent. Et produire à bas prix pour le marché international ne contribue pas à résoudre ce type de problème.
Kakonoubukwo, au Togo, quelle est la situation?
Oui, je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit. Vous savez, dans le domaine agricole, le libéralisme, c'est la liberté du loup dans la bergerie. On l'a vu au moment de Cancun, où on voit quand même qu'il y a beaucoup de subventions.
Cancun?
Oui, à la 5e conférence ministérielle de l'OMC en septembre 2003, où le coton africain a connu ce que vous connaissez, c'est-à-dire le blocage par rapport aux subventions américaines, notamment les subventions aux exportations, le fameux programme Step 2, et même les subventions au sein de l'Union européenne. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucune agriculture dans ce monde qui ne soit subventionnée. Ce qui fait que quand vous mettez ensuite sur le même marché des agricultures familiales et les grandes agricultures productivistes du Nord, vous avez des écarts de productivité qui peuvent aller de 1 à 400. Ça veut dire qu'en termes de résilience pour les petits agriculteurs, nous devons travailler sur les questions de protection également.
C'est ce qui se passe au Togo?
C'est ce qui se passe au Togo. Comme vous savez, nous avions signé la déclaration de Maputo en 2003 pour dire que nous allions consacrer 10% du budget à l'agriculture. Nous avons fait le point à Nouakchott 10 ans après et on voit qu'en dehors du Mali et du Sénégal, il y a très peu d'États qui arrivent à consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. Mais au-delà du fétichisme des chiffres, ce que cette déclaration traduit, c'est qu'il faut sortir du biais urbain. C'est-à-dire que ceux qui nourrissent aujourd'hui l'Afrique, ce sont les agriculteurs, même les populations urbaines, toutes les ceintures maraîchères. On n'en parle pas suffisamment. Mais ce sont les agriculteurs qui nourrissent l'Afrique, les agriculteurs africains. Et même sur les budgets nationaux, vous voyez bien que les devises qui les produit de facto, ce sont les cultures de rente. Donc, nous dépendons beaucoup de nos agriculteurs et il y a une justice que nous devons, dont nous devons parler, c'est notre capacité à donner à ces agriculteurs ce qu'ils apportent en termes de contribution au bien-être national.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons agriculture familiale contre agro-business. Deux invités, Kakonoubukwo, économiste et ministre togolais de la prospective, et Hubert Cochet, professeur d'agriculture comparée à AgroParisTech. L'agriculture au cours du XXe siècle, cela a beaucoup été de grandes exploitations. Il y a le célèbre Middle West américain, les Kolkhoz et les Sovkhoz d'Union soviétique, et puis il y a quelque chose de plus ancien encore, ce sont les latifundios d'Amérique latine, ces grandes exploitations qui faisaient travailler une main-d'œuvre misérable. Les latifundios, ils existent toujours. Au Chili, l'agriculture est une des principales ressources économiques du pays, mais les grands propriétaires doivent s'adapter à la mondialisation. Notre correspondante à Santiago du Chili, Claire Martin, les a rencontrés.
L'activité agricole s'est, au fond, concentrée sur les activités où elle était plus compétitive. Au niveau de la viande bovine et du lait, nous avons perdu du terrain face à des pays beaucoup plus forts comme l'Argentine et le Brésil. Mais nous nous sommes fortifiés et concentrés sur le fruit et les graines.
Ignacio Verrar fait partie des agriculteurs de taille moyenne du Chili. Sa famille possède un fundo, une propriété terrienne de plus de 250 hectares dans le sud du pays. Elle a réussi à résister à la brusque ouverture des frontières après l'adhésion au Mercosur en 1996. Elle a dû se reconvertir. D'une production laitière et de viande bovine vendue au marché intérieur, elle est passée aux myrtilles destinées à l'exportation. Beaucoup d'agriculteurs de grosse taille ont fait pareil, comme sa voisine Veronica González.
Le projet Myrtille a signifié un stress financier très important. Nous avons dû nous endetter de manière importante pour un projet qui représente 5 à 6 ans sans revenus. Et ça nous a demandé beaucoup de courage pour résister.
Le Chili est aujourd'hui le premier exportateur de myrtilles au monde, un fruit très cher et de plus en plus demandé.
L'ouverture au monde du marché chilien a permis le développement, le décollage d'une agriculture beaucoup plus technologique.
Mais l'ouverture a laissé derrière elle les petits agriculteurs, approfondissant encore les inégalités. Leopoldo Sanchez, du ministère de l'Agriculture.
Le petit agriculteur parvient difficilement à se déplacer sur ses terres dans un véhicule à moteur, quand le gros agriculteur se déplace en hélicoptère.
Selon le dernier recensement de 2007, le Chili a perdu en 10 ans 25 000 petits agriculteurs et plus de 2,5 millions d'hectares cultivés par les petits agriculteurs.
Le prix de la terre a augmenté de manière explosive. Et ça, ça veut dire que pour garder ses terres, l'agriculteur doit être très compétitif.
Sinon, les agences immobilières, mais aussi les plantations forestières et les gros agriculteurs du fruit frais sont là pour les racheter. Rigoberto Tura est président d'un syndicat de petits agriculteurs.
Le Chili, puissance alimentaire mondiale, c'est en réalité le fruit frais, le vin, le bois et le saumon. Ce que ne produit pas notre agriculture de subsistance, notre petite agriculture familiale, celle qui nourrit la population intérieure.
Si le pays a réussi à devenir une grosse puissance agricole exportatrice, il laisse disparaître une agriculture qui lui permettait jusqu'ici d'être autosuffisant. Un risque à long terme étouffé par un discours dominant victorieux.
Alors Hubert Cochet, l'Amérique latine, c'est une région que vous connaissez bien. Est-ce qu'on peut généraliser cet exemple chilien à tout le continent ?
Alors, oui et non. Dans l'histoire de l'Amérique latine, les grands domaines hérités de la colonisation espagnole et portugaise, ces fameux latifundia, étaient particulièrement inefficaces du point de vue économique, et c'est bien au nom de leur inefficacité et au nom de la justice sociale qu'un certain nombre de pays ont tenté des réformes agraires pour distribuer cette terre à des agriculteurs familiaux jugés beaucoup plus efficaces pour la mettre en valeur. Alors depuis cette époque, beaucoup de ces grands domaines ont été morcelés par héritage ou en fonction des réformes agraires, et un certain nombre se sont modernisés effectivement pour devenir aujourd'hui des exploitations de nature capitaliste à salariés, qui effectivement créent des emplois salariés et créent de la valeur ajoutée. On ne peut pas dire que de ce point de vue-là, elles sont inefficaces. Mais il existe encore de très nombreux grands domaines qui produisent très peu à l'unité de surface, créent très peu d'emplois. Ce domaine du latifundium un peu à l'ancienne est encore très très prégnant en Amérique latine. Maintenant, je voudrais juste faire une remarque sur l'Amérique latine. L'Amérique latine a connu pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle des guerres civiles qui, toutes avec pour racine, la question de l'inégal accès au foncier. Eh bien, les investissements, les processus d'accaparement foncier que l'on observe aujourd'hui dans d'autres continents, notamment en Afrique subsaharienne, sont en train de créer sur ce continent les conditions des guerres civiles de demain, dans la mesure où on crée des inégalités d'accès aux ressources qui n'existaient pas sur ce continent et qui vont, je pense, générer des conflits tout à fait considérables.
Kakonoubukpost, vous partagez ce point de vue ? On est en train de créer les conditions des conflits de demain en Afrique ?
Oui, tout à fait. Et quand on y ajoute l'impact des changements climatiques, on voit bien que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies d'une explosion si rien n'est fait. Ce qui nous conduit à trois pistes de réflexion qui me paraissent importantes. La première piste, c'est comment enrichir le référentiel technique. C'est-à-dire que le renforcement de capacité des producteurs, leur capacité à respecter les itinéraires techniques.
Oui, mais vous voyez bien que ce n'est pas à la hauteur des défis qui sont posés par ce que souligne Hubert Cochet.
Ah si, si. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas au plan des individus, leur capacité à répondre aux ce qu'on appelle les incentives, les incitations du marché, vous n'avez aucune chance de les voir demain s'adapter aux mutations en cours. Et c'est pour ça que la question du renforcement des capacités des producteurs est cruciale, mais aussi la question de la maîtrise de l'eau. Mais il n'y a pas que le référentiel technique. Il y a les arrangements institutionnels, la résilience des OP, les organisations de producteurs, leur capacité à aller vers le marché, à acquérir du financement. Et il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi les politiques publiques à rendre cohérentes, les politiques de transport. Comme ça a été dit dans un des reportages, si on augmente la production, mais que l'écoulement des produits ne se fait pas, vous voyez tout de suite que les incitations seront perverses pour les producteurs. Donc, rendre cohérentes les politiques publiques, la politique commerciale. Si en même temps que nous essayons d'augmenter les capacités des producteurs, nous avons des politiques commerciales qui font qu'il vaut mieux importer du riz thaïlandais plutôt que d'aider le producteur de riz togolais à augmenter sa production, vous voyez que là, on risque d'avoir des difficultés. Donc, je crois qu'il y a ces trois défis. Enrichir le référentiel technique, promouvoir les arrangements institutionnels et rendre cohérentes nos politiques publiques. Si on s'y attaque, on pourra réduire le risque, comme l'a dit M. Cochet, d'une émergence de conflits très graves.
Mais est-ce que la question centrale, ça n'est pas au fond la propriété de la terre, l'accès à la terre, au-delà de ces améliorations de compétences techniques des agriculteurs, Hubert Cochet?
Alors, effectivement, l'agriculture familiale n'est pas en soi et intrinsèquement plus efficace que d'autres formes d'agriculture. Encore faut-il qu'un certain nombre de conditions soient réunies, la première d'entre elles étant évidemment l'accès à la terre et je dirais l'accès à l'eau aussi, puisque c'est très lié dans les régions où l'irrigation est indispensable. Donc, cette première condition n'est toujours pas remplie et des centaines de millions d'agriculteurs dans le monde n'ont pas un accès suffisant à la terre et à l'eau. Maintenant, ça ne suffit pas. Avoir accès à la terre sans avoir accès aux moyens de production pour la mettre en valeur, c'est évidemment insuffisant. Avoir accès à la terre sans avoir accès à un marché dans des conditions de prix pas trop défavorables, c'est évidemment insuffisant. Donc c'est un ensemble de conditions à réunir pour permettre au potentiel de cette agriculture familiale de s'exprimer. Et je pense que les politiques publiques ont un rôle à jouer considérable dans la réunion de ces conditions.
Mais ces politiques publiques, elles ne semblent pas réunies, puisque aujourd'hui encore, la plupart des gens qu'on considère comme pauvres sur la planète, ils se recrutent dans les populations paysannes, en particulier en Afrique, à Konoko.
Oui, tout à fait. Vous savez, une des difficultés que nous avons, c'est que sur 50 ans, nous n'avons pas pu faire le lien entre la succession de chocs que connaissent nos sociétés, nos économies, et l'absence structurelle de réponse aux défis du développement. Et ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un choc, on se mobilise pour essayer de répondre aux impacts négatifs de ce choc, mais comme il y a des effets induits, des effets externes, on n'y arrive pas. C'est pour ça que je crois que la question de l'accaparement des terres, elle est foncièrement liée à la question de la pauvreté. Ce qui fait que tant que nous aurons des taux de pression fiscale de 17%, et donc que nous aurons des difficultés à faire de vraies politiques publiques de redistribution de la richesse, nous ne pourrons pas lutter efficacement contre ces phénomènes de prédation, qui sont des phénomènes souvent micro. C'est-à-dire qu'un grand, entre guillemets, comme nous disons en Afrique, va essayer de négocier avec de petits producteurs, et c'est très difficile de résister. Et donc, le rapport de force est inégal. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut des coalitions au niveau des organisations des producteurs pour dénoncer ces dérives qui nous a été donné d'entendre tout à l'heure dans un certain nombre de reportages, notamment au Mali. Et donc, s'il n'y a pas de capacité de négociation des producteurs qui s'améliore, il sera très difficile, eu égard à la grande pauvreté qu'il y a en Afrique aujourd'hui, de résoudre le problème de l'accaparement des terres.
On peut raisonner aussi comme cela en Asie ou en Amérique latine, Hubert Cochet ?
Oui, alors, toujours en prenant soin de ne prendre garde de ne pas tout mettre toutes les situations dans le même panier compte tenu de l'extrême diversité, j'insiste toujours là-dessus. Maintenant, en matière de politique publique et de soutien public, ces soutiens restent
concentré sur ces modèles de grande exploitation à salariés qui s'installent un peu partout. Mais les soutiens publics dont elle bénéficie sont largement supérieurs à ce que l'on pourrait calculer en termes de subventions directes. Je prends juste un exemple, le très bas coût d'accès au foncier, moins de 1 dollar par hectare et par an pour la plupart des situations, parfois même moins, le très bas coût de l'accès à l'eau, le très bas coût de l'accès à la force de travail dans des pays où le droit du travail a plutôt tendance à régresser, et une fiscalité extraordinairement avantageuse, tout cela constitue des soutiens publics massifs pour ce modèle d'agriculture qui ne démontre pas toujours sa supériorité technique et économique.
Quels sont les défis aujourd'hui, Kakonukpo ? Brièvement.
Oui, les défis, tout le monde les connaît. Nous n'avons pas pu atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Nous sommes en train d'aller vers les objectifs du développement durable. Il me semble qu'il y a trois défis importants.
Très rapidement.
Oui, l'efficacité économique. Il faut qu'on y aille vraiment. L'équité sociale, donc la redistribution équitable des fruits de la croissance. Et enfin, la protection de l'environnement. Pour que demain, nous ne laissions pas à nos enfants une situation sociale ingérable.
Eh bien, ce sera le mot de la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, qui était réalisé par Guillaume Munier. Merci à vous, Kakonukpo et Hubert Cochet, d'y avoir participé. Merci. Vous pouvez nous réécouter ou nous podcaster sur le site RFI.fr. À la semaine prochaine.